Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie.
Salut Christophe.
Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
Bonjour Christophe.
Le 5 mars dernier, c'est à Bagdad que s'est posé l'avion du pape François pour une visite de 3 jours. C'est le premier voyage du souverain pontife depuis le début de la crise sanitaire et il a choisi un pays particulièrement instable, l'Irak. L'Irak est en effet secoué par les affrontements entre milices chiites et sunnites et en proie, comme le reste du monde, à la crise sanitaire. Alors avant de parler du voyage du pape, Alain, est-ce qu'on peut nous faire un bilan de l'Irak aujourd'hui? Est-ce toujours un pays en guerre et comment se porte-t-il 18 ans après l'invasion américaine de 2003 ?
Dites-vous d'abord, Christophe, que l'Irak, c'est un pays clé dans la région. C'est vraiment le pays qui fait face à l'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite de l'autre, enfin plus loin. Donc c'est un pays clé dans la région. 40 millions d'habitants, immense producteur de pétrole. Voilà, c'est un pays qui compte. Je ne dirais pas qu'il est vraiment en guerre. Il y a encore 1500 à 2000 soldats américains qui font partie d'un contingent qui avait été renvoyé en 2013-2014 pour lutter contre l'État islamique, envoyé par les États-Unis. Et il y a une palanquée de milices chiites qui représentent plusieurs dizaines de milliers d'hommes en armes avec des blindés, un équipement qui est celui d'une véritable armée, pour la plupart qui sont des milices pilotées par Téhéran, qui sont au service de Téhéran et qui ont été armées et équipées par les Iraniens. C'est un pays qui est, comme vous le savez, multi-ethnique, c'est-à-dire qu'un tiers de la population, ou peut-être un peu moins d'un tiers, ce sont des Kurdes qui vivent dans le nord du pays. Ensuite, vous avez des Arabes. La majorité de ces Arabes sont des chiites et une minorité sunnite. Depuis l'intervention des Américains en 2003, les chiites, qui sont la majorité dans la population arabe, sont au pouvoir. Sauf que c'est en train, si vous voulez, de prendre une autre tournure. Ce pays, à cause de l'intervention des États-Unis en 2003 et parce que la majorité chiite a été mise au pouvoir par les États-Unis, ce pays est extrêmement dépendant de Téhéran. Je dirais même que c'est un pays qui est sous tutelle iranienne. Le suzerain, c'est Téhéran. Et ce pays constitue le premier chaînon, un chaînon fondamental pour l'expansionnisme iranien. C'est le premier chaînon de 3 dominions arabes, dominions iraniens dans le monde arabe. Une sorte d'expansionnisme comme ça, certains disent d'impérialisme, par milices chiites interposées qui sont au pouvoir à Bagdad. L'Iran a un droit de veto sur ce qui se passe en Irak. Ensuite, un droit de veto sur ce qui se passe en Syrie, ce qui donne d'ailleurs un premier accès à la Méditerranée. Et enfin, un droit de veto sur ce qui se passe au Liban, accès à la Méditerranée, là encore pour l'Iran, avec l'appui de la milice chiite libanaise, mais entièrement constituée et qui fait partie du dispositif militaire iranien dans le monde arabe, la milice chiite libanaise Hezbollah. Le plus important de ces dominions, c'est l'Irak. Si l'Irak arrive à se dégager de la tutelle iranienne, c'est l'ensemble de ce croissant chiite qui pourrait commencer à se décomposer. Donc, ce qui se passe en Irak en ce moment est très important. Comme l'Iran était sous sanctions économiques américaines, renouvelées par Trump, accentuées par Trump, l'Iran, de plus en plus, s'est payé sur la bête irakienne, si je puis parler vulgairement. C'est-à-dire que l'Iran a littéralement eu un comportement extraordinairement prédateur en Irak, grâce à ses milices chiites irakiennes à son service, qui ont prélevé systématiquement une partie du pétrole irakien et d'autres ressources pour les amener en Iran qui en avait besoin. Mais cela a suscité, en 2019 et 2020, une révolte de la population, et notamment de la population chiite irakienne. Les Arabes irakiens d'Irak se sont révoltés. Ce qui fait que, à la suite de ce mouvement, est arrivé en ce moment au poste de Premier ministre en Irak un homme, Mustafa al-Kazimi, qui veut reprendre son indépendance par rapport à l'Iran. Alors, il a été reçu à Téhéran, mais il a été reçu à Washington, où il a passé des contrats importants avec les États-Unis, notamment avec la compagnie General Electric, pour remettre le système d'électrique irakien en marche. Et il a été reçu en Europe, notamment à Paris. Et donc, on a un nouveau type de pouvoir en Irak. Il est certes chiite, M. Kazimi, mais il veut briser la tutelle que l'Iran exerce sur l'Irak. Et c'est peut-être le début d'un démantèlement de ce qu'on appelle ce croissant chiite au service de l'Iran dans le monde arabe, Irak, Syrie, Liban.
Une des raisons officielles de la guerre initiée par les États-Unis, c'était l'établissement d'une démocratie et d'un état de droit à Bagdad. J'imagine qu'on allait encore très loin, non Jean-Marie ?
Un souvenir très personnel, il y a eu après le déclenchement de la guerre américaine en Irak, vous vous souvenez du nom français, donc il y avait un schisme en Europe, il y avait d'un côté Paris-Berlin qui s'opposait à cette intervention et de l'autre Londres, et le Portugal et l'Espagne qui au contraire la soutenaient. Et donc pour essayer de raccommoder un petit peu les choses, Condoleezza Rice, qui était à l'époque le bras droit du président Bush, était venu en tournée, notamment en France et à Paris, et nous avions été trois interlocuteurs de Condoleezza Rice, et nous lui avions expliqué, nous lui avions posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient conscience que la déstabilisation de l'Irak conduirait immanquablement à la satellisation de l'Irak par rapport à l'Iran, qui était pourtant désigné comme un rogue state, comme l'ennemi stratégique. Et ce qui m'avait frappé, et me frappe encore aujourd'hui, c'est qu'elle était restée sans réponse, mais sans réponse aucune, ce qui montre bien, pas seulement l'impréparation, mais l'absence de vision stratégique des États-Unis à l'époque, et qui illustrait parfaitement la vision au contraire de Jacques Chirac, qui considérait que c'était une sorte d'emboîtement de poupée russe, que de toucher à l'Irak, ça conduirait immanquablement à une chaîne qu'a parfaitement décrite aujourd'hui Alain Frachon dans la conséquence qui ont eu lieu. Alors ensuite, vous me posez la question de la démocratie, je pense que tout ça est difficile compte tenu du fait, regardez ce qui se passe à Bagdad, c'est en dehors d'une zone ultra protégée, vous n'êtes pas en sécurité, il y a quand même des attentats tous les jours, il y a cette séparation chiite-sunnite, je vois mal que la démocratie puisse être confortée, même s'il y a des élections, même s'il y a un gouvernement issu de ces élections, ainsi de suite. Donc tout cela, je pense, est encore un champ de reconstruction, comme le reste du pays d'ailleurs.
À propos du nom français à la guerre américaine en Irak, je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'écouter le discours de Dominique Villepin à l'ONU. C'était le 14 février 2003 et on peut le trouver sur YouTube. Alors, je le disais, c'est le premier voyage du pape François depuis le début de la pandémie. Le dernier, c'était au Japon en novembre 2019. Alain, pourquoi avoir choisi l'Irak ?
Ben, je pense qu'il a choisi l'Irak d'abord parce qu'il y avait 1 500 000 chrétiens en Irak, notamment dans toute la région de Ninive, si vous voulez, parce que l'Irak est un des berceaux du christianisme. En ce sens, le christianisme est d'abord une religion orientale. C'est le berceau du christianisme. Or, il se trouve que, au fil des combats et de la déstabilisation que connaît l'Irak depuis près d'un demi-siècle maintenant, mais au fil des combats, si on cherche une date plus récente, c'est 2003, l'intervention américaine en Irak et puis l'occupation de l'Irak avec une sorte de proconsul américain à la tête de l'Irak. Eh bien, ce pays n'a connu que la guerre. Un Irakien qui serait né en 2003 n'a connu que la guerre. Et même, je dirais, un Irakien qui serait né en 1980, au moment où le dirigeant irakien de l'époque, Saddam Hussein, lance une grande attaque, son offensive contre l'Iran, contre la République islamique d'Iran, eh bien cet homme-là n'aurait connu, cet homme ou cette femme n'aurait connu que la guerre depuis donc 1980. Ensuite, il y a eu des embargos stupides votés par les Nations Unies contre l'Irak de Saddam Hussein qui ont mis ce pays dans un état de misère qu'on a du mal à imaginer puisqu'il possède sans doute les deuxièmes réserves de pétrole du monde, que c'est un pays qui avait un vrai équilibre démographique. L'évolution démographique le préservait de surpopulation, par exemple, comme en Égypte ou ailleurs. C'est un pays qui avait une agriculture, c'est un pays qui avait des universités, des scientifiques, etc., même s'il était dirigé par un dictateur parmi les plus sanguinaires de la région, sinon le plus sanguinaire de la région. Donc je pense que le pape vient en Irak, est venu en Irak, D'abord, pour manifester, si vous voulez, sa préoccupation sur le sort des chrétiens d'Orient. Parce que les chrétiens d'Orient, au fil de ces 50 années de combat, ont souvent été les premières victimes. Elles ont été victimes de l'extrémisme sunnite, de l'État islamique, Daesh, qui s'est installé justement dans cette région de la plaine de Ninive, à Mossoul, dont l'État islamique va faire sa capitale en tout cas en Irak. Et les premières victimes ont été les Yézidis d'abord, et puis ensuite les chrétiens, tout près. Aujourd'hui, il n'y a plus que 500 000 chrétiens en Irak. Et donc le pape est venu dire sa solidarité et leur dire il ne faut pas partir, il faut rester. Il a été appuyé en cela par le Premier ministre, par le chiite Kazimi. Il est appuyé aussi par d'autres minorités, l'Irak étant une sorte de spectre, comprend tout le spectre de la chrétienté d'Orient. Il n'y a pas que des catholiques romains, naturellement. Et donc, il est venu leur dire ça. Mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que ça participe aussi de cette volonté du Premier ministre irakien et d'une partie des jeunes élites irakiennes de dégager leur pays de cette malédiction de la guerre, de cette malédiction de relations de suzeraineté avec la République islamique, enfin, de s'ouvrir sur un avenir qu'il ne soit pas celui de conflits interethniques ou de conflits avec la République islamique d'Iran, par exemple. C'est toutes ces raisons, je pense, qui font que le pape est venu et a tenu à venir dire sa solidarité avec les quelques 500 000 chrétiens qui restent encore en Irak. Ils étaient, n'oubliez pas, je vous redonne ce chiffre, ils étaient 1 500 000 en 2003.
L'Irak, c'est aussi un lieu qui concentre les trois religions. Il y a des lieux saints de chacune des religions monothéistes. Il y a, en effet, c'est le lieu de la naissance, comme l'a dit Alain, de l'Église d'Orient. Mais c'est aussi pour les Juifs un lieu d'exil, notamment en Mésopotamie. La Bible est truffée de lieux qui se situent dans cette région. Et enfin, en Irak se trouve aussi un des grands lieux saints de l'islam, qui est à Najaf, qui est une ville qu'a visité le pape François. Ça n'est pas un pape européen, ça n'est pas un pape occidental au sens où nous l'entendons sous l'angle géopolitique. C'est un pape du Sud et c'est un pape qui rend visite principalement à une zone qu'il considère comme une des principales victimes des aventures militaires américaines. Et ça, c'est au cœur de sa pensée et de sa vision qu'il critique très souvent et critique pas seulement sous l'angle militaire, il critique aussi sous l'angle, j'allais dire, du capitalisme et de l'écologie à travers la destruction, entre guillemets, d'un certain nombre d'éléments de l'économie de nos pays. Il faut bien avoir ça en tête sur le pape actuel. Et d'autre part, c'est pour le Vatican et pour lui-même l'aboutissement d'une démarche de rapprochement avec l'islam. C'est une démarche qui avait été entamée d'abord par le Concile Vatican II, qui a été largement poursuivie par Jean-Paul II, qui a été interrompue par Ratzinger, le cardinal Ratzinger, par maladresse, parce qu'il avait dans un discours fameux à Ratisbonne fait l'éloge d'un empereur byzantin qui était notoirement dur avec l'islam. Ça avait été perçu comme une attaque par le monde musulman, donc les choses s'étaient interrompues, et François a repris de ce point de vue-là son bâton de pèlerin. Il a commencé par les sunnites, en se rapprochant de l'imam de l'université Al-Azhar du Caire, avec lequel il a signé un document de fraternité, et il essaie maintenant de faire la même chose avec les chiites, et d'où la visite à l'ayatollah Sistani, et dans la même démarche de la part du pape, qui est de rapprocher l'islam et le monde catholique, mais l'islam en encourageant évidemment tout ce qui dans l'islam peut éloigner l'islam des attentats, du terrorisme, de la violence, etc. Ça correspond à la fois à une vision géopolitique du pape, donc je vais là où les pays ont le plus souffert des aventures militaires américaines, mais aussi une vision stratégique du Vatican qui consiste à essayer de rapprocher les trois religions monothéistes. Et donc, beaucoup a été fait par Jean-Paul II pour le rapprochement avec les Juifs, bien évidemment. Et s'agissant de François, il essaie de rapprocher le monde catholique de l'islam chiite et sunnite de façon à ce que s'éloigne autant qu'il est possible l'islam radical, l'islam politique.
Et j'ajouterai que le pape s'est rendu à Ur. Ur, c'est le lieu de naissance d'Abraham, un personnage commun aux trois grandes religions monothéistes, islam, christianisme et judaïsme. Le pape a aussi rencontré l'ayatollah Ali al-Sistani, une figure capitale pour les musulmans chiites d'Irak et du monde entier. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Alain, sur cet homme et pourquoi sa rencontre avec le pape est considérée par les observateurs comme l'une des plus importantes de l'histoire ?
D'abord, c'est sans précédent. Ensuite, Sistani, en ce moment, aujourd'hui, enfin c'est un homme qui a plus de 90 ans, est considéré comme sans doute la plus grande autorité du monde chiite. Beaucoup plus que le guide de la révolution iranienne, Ali Khamenei, par exemple. Plus encore peut-être même qu'un homme comme Khomeini. Donc Sistani passe pour la grande autorité dans le monde chiite. Les sources du Vatican disaient qu'il n'était pas sûr qu'il finisse par accepter de recevoir le pape. Il habite dans une des deux grandes villes, je crois qu'il habite à Najaf, dans une des deux grandes villes qui sont des lieux saints du chiisme, Najaf et Kerbala, comme le rappelait Jean-Marie tout à l'heure. L'ayatollah l'a reçu. La rencontre a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Les deux hommes ont eu des gestes de sympathie réciproque à dessein pour bien manifester une sorte d'appréciation réciproque l'un à l'adresse de l'autre. Ça prend aussi une signification dans le contexte dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un contexte où on voit que le chiisme irakien, un homme comme le premier ministre, Casimir, essaye de d'ébranler la tutelle qu'exerce la République islamique sur l'Irak, au travers de milices que finance Téhéran. Milices qui, par ailleurs, ont largement participé à la lutte contre l'État islamique. Mais enfin, pourquoi ? Parce que Sistani n'est pas d'accord avec ce que représente la théocratie iranienne. La théocratie iranienne est fondée sur ce principe. Certes, il y a un gouvernement, certes, il y a un président, certes, il y a un parlement, tout un pouvoir exécutif, mais in fine, le dernier mot dans la vie politique iranienne appartient au guide, qui est choisi toujours parmi les religieux. Celui-ci ne passe pas pour être un religieux de très grande qualité théologique, mais enfin, c'est un ayatollah tout de même. Eh bien, Sistani s'est opposé à ce système. Il a dit « ce système n'est pas bon pour l'islam, ce système n'est pas bon pour l'islam chiite, ce système n'est pas bon pour la gouvernance des hommes ». Ce système qu'on appelle le velayat efagi en farsi, il l'a condamné à plusieurs reprises. Il a manifesté fondamentalement son désaccord avec le principe, avec les principes, le principe du gouvernement institué par la République islamique. En fait, il n'est pas en accord avec la théocratie. Il pense que ce n'est pas à l'échelon religieux de diriger les affaires d'un pays. Voilà pourquoi aussi cette visite avec Sistani, elle a une importance sur le dialogue des religions. Donc, François dialogue avec l'islam sunnite, qui est la majorité de l'islam, hein, c'est la majorité de l'islam, mais il dialogue aussi avec les minoritaires, qui sont les chiites, et il a tenu à avoir cette rencontre avec la plus grande autorité du monde chiite aujourd'hui. Sur le plan théologique, sur le plan religieux. Et puis, il y a aussi donc, cet aspect politique qui est qu'il va voir un homme qui a exposé explicitement son désaccord avec le mode de gouvernement que représente la République islamique d'Iran.
Mais est-ce que cette rencontre a une influence uniquement locale ou est-ce que ce dialogue entre deux grands leaders religieux peut avoir un impact sur les fidèles du monde entier ?
C'est une importance de long terme. Il faut se souvenir aussi, par exemple, du rôle qu'a joué Jean-Paul II dans l'effondrement du système soviétique. C'était pas un rôle central, mais il a apporté sa pierre. De la même façon, là, ces gestes-là sont quand même de nature à essayer de... Alors qu'on vivait, on vit encore d'ailleurs, sous l'empire de la thèse de Samuel Huntington sur la guerre des civilisations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui veut rompre avec cette doctrine ou avec cette vision caricaturale des choses et qui essaie d'apporter autre chose. Donc je pense que c'est une pierre non négligeable. C'est de nature à influencer quand même un certain nombre de gens qui regardent toujours vers Rome pour avoir aussi eux aussi une grille de lecture de l'univers actuel. Donc ça n'est pas négligeable, même si ça n'est jamais une portée immédiate.
Ça ne peut pas non plus ne pas avoir de répercussions sur un pays comme le Liban. Le Liban, un tiers chrétien probablement, un tiers de musulmans sunnites, un tiers de musulmans chiites, et puis des druzes et quelques autres minorités. Mais dans les grandes manifestations, dans le mouvement de révolte de la population libanaise qu'il y a eu en 2019 et même en 2020, encore avant la tragédie de l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier, eh bien, une partie de la population chiite libanaise a commencé à manifester aussi, et ils manifestaient contre le Hezbollah, contre l'emprise de l'Iran sur la vie politique et économique du Liban. Donc, ça peut pas ne pas avoir un impact partout où dans le monde arabe il y a des communautés chiites.
Alain, vous avez évoqué trois grands voisins de l'Irak, l'Iran, dont on a parlé, mais aussi la Turquie, dont on va parler, et l'Arabie Saoudite. Alors, on explique souvent ici que la volonté d'influence de Mohamed Ben Salman, le leader arabe sur la région, quelles sont les relations entre Riyad et Bagdad ?
Alors, il y avait très peu de relations dans la mesure où, dans cette espèce de guerre froide qui s'installe dans le Moyen-Orient depuis une vingtaine d'années, vous avez d'un côté des pays arabes comme l'Arabie Saoudite qui prend la tête du monde arabe opposé à l'expansionnisme iranien. Et puis, vous avez des pays comme la Syrie et le Liban, je l'ai dit, qui sont dans le croissant chiite façonné par la République islamique en terre arabe. Donc naturellement, c'était plutôt, tant que l'Irak a eu des premiers ministres qui se soumettaient à la tutelle iranienne, qui n'osaient pas prendre une manière d'indépendance, comme essaye de le faire très subtilement d'ailleurs, avec beaucoup d'intelligence et de subtilité politique, le premier ministre irakien de l'époque, c'est l'ancien chef des renseignements du pays, donc il connaît la mosaïque de forces politiques que représente, il connaît très bien la mosaïque de forces politiques que représente l'Irak. Mais justement, lui, dans la mesure où il a manifesté cette volonté, il intéresse l'Arabie Saoudite. Et il y a quelques semaines, le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est rendu à Bagdad. Il s'est rendu à Bagdad pour voir des possibilités d'assistance financière, des possibilités d'investissement. À vérité, ce dont rêve l'Arabie Saoudite, ce serait d'attirer l'Irak dans cette ligne des accords d'Abraham. C'est-à-dire d'attirer l'Irak dans un front contre l'Iran. Je pense que le premier ministre irakien ne fera pas ça. Il n'ira pas jusque-là parce qu'il sait que son voisin, et ça sera son voisin pour l'éternité, c'est l'Iran. Et il sait qu'il faut trouver un modus vivendi avec l'Iran. La géographie l'impose et l'histoire l'impose aussi. Donc voilà, je pense qu'il n'ira pas jusque-là. Mais néanmoins, il y a un rapprochement entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, qui fait partie de cette volonté de Bagdad de se désengager de la tutelle de la République islamique d'Iran.
Troisième voisin de l'Irak, la Turquie. Sur son blog du Monde, l'historien et spécialiste de la région Jean-Pierre Filieu évoque la possibilité d'une offensive turque dans le nord de l'Irak, offensive qui ciblerait les Kurdes. Alors est-ce qu'une telle opération est possible selon vous et quels en seraient les risques ?
Il y a aussi la Syrie dans tout cela. La Syrie parce qu'on est au moment où on s'aperçoit que ça fait 10 ans de guerre en Syrie et pour ceux qui s'en souviennent positivement, il y a eu évidemment il y a 10 ans la révolte du peuple syrien contre la famille Bachar el-Assad dont Laurent Fabius nous avait promis qu'elle allait tomber, qui n'est non seulement pas tombée mais qui est toujours présente, fortement présente. Les Russes entre-temps ont remplacé les Américains. C'est probablement aussi un des lieux les plus tragiques de l'histoire avec 6 millions de réfugiés, notamment de gens qui sont au Liban et notamment aussi de réfugiés en Turquie. Puisque c'est un des éléments de la Turquie, de poids ou de poussée de la Turquie en direction de chantage même parfois en direction de l'Union européenne, parce que il ne garde ses réfugiés qu'à la condition que l'Union européenne finance ces camps de réfugiés, et plutôt que de laisser la voie ouverte à ces réfugiés vers l'Europe. Donc voilà, je pense qu'il fallait quand même rappeler cela, parce que c'est un des éléments clés aussi de la région. Et par ailleurs, pour le moment, personne n'a réussi à se prémunir contre ce qu'on peut appeler l'aventurisme d'Erdogan, qui rêvait de réinstaller une sorte de leadership dans toute la région, dans une large zone méditerranée, puisqu'il pousse ses avantages ou ses forces jusqu'en Libye, et pas seulement sur la frontière avec la Syrie, mais il y a aussi cette éternelle, et avec l'Irak, cet éternel conflit avec les Kurdes, qui fait que ça c'est un sujet totalement intransigeant pour Erdogan, d'autant qu'il est allié avec l'extrême droite turque, qui est évidemment ultra-nationaliste, et que c'est un petit peu comme cela aussi qu'il tient son pouvoir, même si ce pouvoir aujourd'hui paraît commencer de se lézarder dès lors qu'il peut y avoir des élections ici ou là en Turquie.
En Irak, Erdogan, pour prolonger ce que dit Jean-Marie, il a des comptes spécifiques à régler. Alors là, on rentre dans la question kurde régionale qui est assez compliquée. Mais les Kurdes de Turquie qui sont regroupés dans le parti PKK, les Kurdes de Turquie sont, en ce qui concerne leur état-major et certains de leurs militants, sont réfugiés dans le nord de l'Irak, dans une montagne, enfin dans une série de montagnes qui s'appelle les monts de Kandil, qui dominent d'ailleurs, qui à partir desquels on redescend vers l'Euphrate et on peut aussi avoir accès au nord de la Syrie. Cette partie de l'Irak, elle est aux mains du Parti démocratique du Kurdistan d'Irak et elle a acquis son autonomie à partir des années 1990. Et c'est une région qui a son gouvernement autonome, son parlement, et qui est dominée par un parti qui est celui de la famille Barzani, le Parti démocratique du Kurdistan. Le Parti démocratique du Kurdistan qui entretient de très mauvaises relations avec le Parti des Kurdes de Syrie. C'est en général la malédiction des Kurdes de se diviser constamment. Donc les Kurdes, l'état-major des Kurdes de Turquie est réfugié là-haut dans cette montagne. Et c'est pour ça que l'armée turque qui bombarde régulièrement cette partie de l'Irak où est réfugié l'état-major kurde de Turquie. Voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que Erdogan, espérant en finir avec ce parti, le PKK, envisage de lancer une très large opération aérienne et terrestre dans le nord de l'Irak. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, mais en tout cas, ça fait partie des possibilités.
Merci à vous deux pour ces explications. Alain, on vous retrouve chaque jeudi dans Le Monde et cette semaine, on reste au Moyen-Orient puisque vous nous parlez d'Israël.
Oui, je parle d'Israël et des États arabes pour rester juste, si vous voulez, pour avoir une sorte de marqueur, de repère pour dire qu'au fond, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on l'annonce, mais on est sorti, et je ne pense pas qu'on reviendra là-dessus, on est sorti d'une conjoncture, d'une configuration stratégique au Proche-Orient où les États arabes étaient dans une situation de belligérance systématique, mécanique et structurelle à cause de la question palestinienne, donc dans une belligérance structurelle face à l'État d'Israël. C'est fini. En un sens, si vous voulez, il y a une paix entre Israël et les États arabes. Alors il y a beaucoup de raisons qui expliquent cette paix entre Israël et les États arabes, mais je crois que ça fait partie des évidences qu'il faut à un moment dire de manière explicite, et c'est très bien raconté dans le dernier livre de Gilles Kepel qui s'appelle « Le prophète et la pandémie ».
Jean-Marie, vous, chaque jeudi, c'est sur France 24 qu'on vous retrouve avec l'émission politique, et cette semaine, vous vous interrogez sur l'attitude du gouvernement face à l'insécurité, une émission visible sur Slate.fr. Merci Jean-Marie, merci Alain, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
Merci Christophe.
Au revoir Christophe.
Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.